Cube Radio.
Bon, même en période de pandémie, il y a des dossiers quand même essentiels, des dossiers urgents qui doivent absolument être menés de front. Alors, c'est le cas, on l'a vu à la Ville de Montréal, qui a adopté à l'unanimité lundi une clause précisant qu'il y aurait une formation offerte pour les élus, les employés à l'écriture inclusive, l'écriture épicène pour combattre la suprématie du masculin dans le français. Ça fait un peu tiquer ma collègue Denise Bombardier, mon collègue Mathieu Bocoté et moi. Alors, on va en parler avec Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu?
Bonjour, d'une humeur constante et joyeuse.
Bon, j'adore. Bravo Zoulou. Tu es chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Les idées mènent le monde ici à Cube Radio. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que ça mange en hiver, explique-nous donc c'est quoi l'écriture inclusive ou épicène?
Alors, derrière cette idée, il y a cette idée que la langue française serait structurée autour d'une forme de sexisme qui se transposerait dans la grammaire, dans les règles de la langue, en fait. Et il faudrait réinventer la langue pour lutter contre le sexisme qui la structurerait, qui la caractériserait. Pour en finir avec, par exemple, le neutre masculin, disons ça comme ça, pour en finir avec l'invisibilisation, comme on dit, du féminin, pour transformer la langue et la soumettre aux exigences dites du féminisme. Alors là, il y a deux différents types de manières. Il y a la fameuse écriture inclusive, comme on dit en gros. Ça, c'est cette fâcheuse manière de mettre partout des points. Donc, on va écrire les écrivains, point E, point S, bon, quelque chose comme ça.
L'écriture va, donc, Québec solidaire, là, citoyen, oui, citoyenne, oui, québécois, québécoise.
Ben ça, non, mais pense encore québécois, québécoise, mais là, c'est plutôt, on va écrire québécois, point E, point S. Donc là, c'est une forme de ponctuation qui s'intègre dans... qui envahit en fait des mots. Bon, plus l'écriture épicène, ensuite, c'est la volonté de neutraliser au maximum la langue, comme on dit. Donc là, plutôt que de dire les Montréalais, on va dire la population de Montréal. Et là, on va multiplier les termes censés lutter contre le sexisme terrifiant qui dominerait les structures mentales de la langue française. Et là, devant ça, il y a plusieurs éléments. Premièrement, je pense qu'il faut dire qu'on est devant ce que j'appelle tout le féminisme, mais une certaine section du féminisme qui vire à la paranoïa. C'est-à-dire un féminisme paranoïaque qui imagine partout des structures de domination patriarcale à combattre. Et puisque nos sociétés sont plus égalitaires que jamais, puisque nos sociétés ont accompli pour l'essentiel la grande révolution de l'égalité, eh bien, quand on veut combattre le patriarcat à tout prix, il faut chercher de plus en plus loin pour le voir, quitte à l'inventer.
Hein, voilà, c'est d'où l'expression...
contre le racisme en luttant contre la laïcité.
Voilà, c'est ça. Il y a une expression, évidemment, je suis pas bonne dans les expressions, donc je vais sûrement la massacrer, mais je pense que c'est quand ton seul outil, c'est un marteau, tu vois des clous partout. Alors, quand ton seul outil, c'est le combat contre le patriarcat, ben, tu vois du sexisme partout. Bon, l'idée de base, c'est quand même de combattre cette idée qui est introduite dans la langue française seulement depuis quelques siècles, qui est que le masculin l'emporte sur le féminin. Mais c'est pas juste ça, l'écriture inclusive. Par exemple, bon, moi, j'ai écrit sur ce sujet-là lundi, puis il y a des gens qui m'écrivent en disant, ben oui, mais ça vous choque pas, vous, comme femme, que le masculin l'emporte sur le féminin? Bon, ma réponse, c'est non. Mais il y a des gens qui disent, ben pourquoi on dit il pleut? Pourquoi on dit pas elle pleut parce que la pluie, c'est féminin, ou elle neige, vu que la neige, c'est féminin. Ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que le « il » dans « il pleut » n'est pas un « il » masculin, c'est un « il » général. Tu sais, comme « il fait beau », c'est pas « il », un garçon avec un pénis et deux couilles qui pleut, c'est un « il » général. Donc, c'est...
Oui,
un...
puis on pourrait dire ensuite, l'esprit de la langue fait de subtiles distinctions nécessaires. Voilà pourquoi on peut dire « il mouille » ne veut pas dire « elle mouille ». Disons ça comme ça, pour prendre un exemple parmi d'autres.
Elle est très bonne. OK, attends, 2 secondes. Je vais demander à Gabriel Meunier, qui est mon collègue à la mise en onde, de me faire une petite coupure. Il va prendre la partie où Mathieu Bocoté dit « elle mouille » et je veux que ce soit ma sonnerie de téléphone.
Ah, le formidable, mon Dieu! C'est ainsi qu'on s'éternise, mais qu'on s'immortalise. Alors, et donc, moi, donc, ça, il y a cette espèce de côté délirant, mais oui. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est ce que j'appelle la tentation de la rééducation idéologique. C'est-à-dire, cette idée qu'il faut, rien ne doit être délivrer, rien de plus, ne pas se soumettre, disons ça comme ça, à l'univers idéologique, soit du féminisme dans ce cas-là, du multiculturalisme dans d'autres. Et là, on va transformer la langue en terrain de bataille, en champ de bataille, quitte à créer une forme de dialecte municipal montréalais qui rendra de moins en moins compréhensible le français montréalais, presque par la francophonie. Déjà qu'il y a cette forme de démence linguistique qui est le franglais. Mais là, si on ajoute à ça l'écriture inclusive, j'en viens à croire que la forme ultime de la dissidence dans l'administration publique à Montréal consistera à écrire sans faute. Je veux dire, vous écrivez sans faute, vous respectez les règles du français, oh là là, on dépiste ici tout de suite un réactionnaire à rééduquer. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui relève de la névrose idéologique, et me semble-t-il qu'on doit accepter cette idée que les règles de la langue ne sont pas simplement l'expression de codes idéologiques ou de rapports de pouvoir invisibles. La langue a son propre univers mental, son propre univers symbolique, ses propres structures pour nommer le monde, et je pense que si on idéologise tout, disons ça comme ça, oui, c'est qu'on se ferme ensuite à la possibilité même de comprendre le génie de la langue, d'entrer dans son univers, et de goûter, j'ajouterais à ça, tous les classiques. Mais ça me fait penser à Orwell, qui, dans 1984, dit un jour, parce qu'il parle de la nouvelle langue, oui, qu'on va en arriver à la réécriture des grands classiques, qui fait qu'un jour, on sera tout simplement plus capable de les comprendre, parce que la langue va avoir tellement évolué que la langue classique va nous devenir incompréhensible. Et bien moi, je redoute le moment où on va se dire, oh là là, mais là, dans les grands classiques de la littérature, tout ça est écrit en écriture pré-inclusive. Il faudrait même les réécrire en inclusif. Là, on me dira que je suis fou aujourd'hui. Bien sûr qu'on me dira ça, mais dans 15 ans, on va me dire que ça, quand ça va être rendu la norme, parce que ça va progresser, cette espèce de vocabulaire, ces idées, et bien là, la folie d'aujourd'hui sera la norme de demain. Donc, il faut devant cela, me semble-t-il, faire preuve d'un esprit de résistance, non pas au nom du conservatisme, de la droite, de la réaction, mais du simple bon sens et de l'amour de la langue française, qui a sa propre manière de décliner la subtilité du monde sans qu'on l'idéologise à outrance.
Oui, c'est ça. Je donnais l'exemple dans ma chronique de ce matin, c'est un lecteur, en fait, Jean-François Couture, qui m'a écrit en disant, ben, il y a plein de particularités dans la langue française. On dit une vedette, même si on parle d'un garçon. Tu sais, on parle de Brad Pitt, puis on dit c'est une vedette. Ben oui, mais c'est un garçon. Est-ce que c'est de la discrimination? Non. Ce sont des particularités de la langue française. Écoute, parmi les exemples qui étaient donnés par cette mairesse d'arrondissement, donc, Émilie Thuillier, qui est à l'origine, donc, de cette proposition à la ville de Montréal, elle donnait des exemples en disant, bon, au lieu de dire les policiers, on va dire la police, parce que c'est un terme générique, mais un exemple aussi qu'elle donnait que je trouvais assez ahurissant, c'est au lieu de dire dans une recherche d'emploi, par exemple, quand on affiche un poste, au lieu de dire la ville de Montréal cherche un responsable des communications, on va dire la ville de Montréal cherche responsable des communications.
Mais
qui parle comme ça?
Non, mais
qui parle comme ça?
Mais des bureaucrates idéologiques de Projet Montréal. Il y a cette formule que j'aime répéter d'Orwell qui nous dit que certaines idées sont tellement sottes qu'il n'y a que des intellectuels pour y croire. Hein? et ça, je pense qu'on est là-dedans. C'est-à-dire là, il va falloir inventer une espèce de nouveau parler montréalais où les mots vont disparaître parce que ces mots nous choquent, ces mots nous heurtent, ces mots sont des violences symboliques, ces mots sont genrés, ces mots sont terrifiants. Livrons-nous de ces mots. Et là, donc, on se retrouve à faire des fautes volontairement par conformisme idéologique. Personne ne parle comme ça, et pourtant, on veut nous forcer à parler comme ça. Et là, quand il faut le voir, dans un autre élément de particulier-là, d'Émilie Dubreuil, qui était très bon, elle nous parle des séances de formation pour les fonctionnaires pour qu'ils puissent se plier à ces règles nouvelles. J'ai reçu d'ailleurs, quand j'écris sur ça, des courriels d'autres personnes qui travaillent dans l'État et qui disent « Oui, on subit de telles séances de rééducation. »
De rééducation, exactement, oui.
Et c'est des ateliers de rééducation idéologique. Alors, nonobstant le fait qu'effectivement, en temps pandémique, disons ça ainsi, il y aurait d'autres choses à faire, même s'il faisait très beau tout le temps à l'année, puis on était à la fois délivré de l'hiver et de la pandémie, eh bien, ce serait pas une raison de massacrer la langue pour autant, et encore une fois, je le redis, de tout soumettre à l'idéologie. Je pense que c'est vraiment un des travers du progressisme dans le monde occidental, c'est de ne pas tolérer que certaines réalités se dérobent au combat idéologique, qu'elles ne se situent pas dans cette logique du gauche-droite, féministe, pas féministe, et ainsi de suite. Et là, quand on est pris à... Quand c'est rendu que défendre la langue française dans son esprit, dans ses règles, dans sa grammaire, dans son orthographe, devient une position de droite, ça nous dit premièrement à quel point la gauche est devenue folle et à quel point le mot droite ne veut rien dire. Et voilà pourquoi, devant cela, il ne faut pas se contenter de réserves discrètes et pondérées, mais nommer la folie qui est devant nous.
Fais attention parce que ça fait trois fois, j'ai noté, t'as dit trois fois le mot folie ou folle. Et il faut faire très attention parce que, évidemment, il y a des gens qui vont faire un amalgame en disant que, bon, tu vois, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est un homme blanc de 40 ans.
Je dirais le délire.
Le délire, voilà.
Masculin, le délire, hein, c'est, mais j'allais dire aussi de la bêtise. Oh, on bascule dans le féminin. Finalement, en ces matières, je dirais, les mots de l'humanité sont bien partagés entre les genres.
Et que dire de cette artiste française que je cite dans ma chronique de lundi et d'aujourd'hui, Tiphaine D, qui elle dit ben il faut mettre des E partout. Donc vous, on écrit ça V-O-U-E-S, nous, N-O-U-E-S, moi, M-O-I-E. Et on dit pas un sourire, on dit une sourire. Et pourquoi dire c'est beau alors qu'on peut dire c'est belle? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mathieu.
Bye bye. De plaisir. Alors, c'est Sophie du Rocher. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet et Frédéric Mockel, et également Gabriel Meunier à la mise en onde.